Nous aimons Jésus en retour ce matin. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes venus. Ce n'est pas pour chanter ensemble, ce n'est pas pour prier, ce n'est pas pour avoir un peu de la communion. Toutes ces choses sont bonnes. Bien, mais nous sommes venus parce qu'il existe une personne qui mérite notre amour. Jésus le Christ. Il est venu pour nous. Il a vécu pour nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Et maintenant, il vit pour nous. Et nous sommes venus pour lui. Ce matin, nous allons considérer un psaume. La dernière fois, j'ai annoncé Tite, chapitre 1, verset 5, mais... Après avoir réfléchi un peu, j'ai dit, on va passer le matin dans le psaume 16, ensemble, le psaume 16. Avant de lire le passage, je veux introduire notre prédication, le message, en lisant une lettre qui a été envoyé par Annie. Elle voulait que je vous lise ces mots. Elle a écrit il y a un an, le culte de dimanche a déroulé comme d'habitude, personne n'était prêt pour le grand changement qui est arrivé brusquement. Pour nous tous, la vie de l'Église a changé radicalement. Pour moi, toute ma vie a changé. Cette année n'était pas facile pour nous comme Église, mais le Seigneur nous a donné la grâce de continuer et il nous a bénis. C'est la même pour moi personnellement. Mais c'est vous, ma chère famille en Christ, qui m'a donné le courage quotidiennement. Vous étiez là pour moi et je vous remercie de tout mon cœur. Je ne suis pas parmi vous pour ce premier anniversaire du départ de Robert, mais je voulais vous remercier encore. J'imagine que Robert est très content au pied de Jésus. Continuons-nous sur le bon chemin. Et elle cite un verset, c'est le verset 8 du psaume 16. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, 8. Elle continue, je vous aime. Merci pour votre amour et réconfort. Je sais que le Seigneur va continuer à bénir l'Église. À bientôt, Annie. Donc elle pense à vous et nous pensons à elle aussi. Et à sa famille. Sa famille, aujourd'hui, ce matin, j'ai pu échanger des SMS avec Timothée. Il voulait aussi que je vous dise qu'il vous aime, il pense à vous en tant qu'une église, et il prie pour nous aussi. C'est le fait que Robert aimait le verset 8 du psaume 16, que j'ai choisi le psaume 16 pour notre considération ce matin. Lisons ensemble le psaume 16. Alors, je vais le lire et vous pouvez le suivre vous-même. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les impieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas à leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Ce sont les paroles de Dieu pour nous ce matin. Donc, j'ai intitulé le sermon « Dieu est mon seul bien ». Dieu est mon seul bien. Et ça, c'est facile à dire, mais difficile à retenir pendant la souffrance, n'est-ce pas? Parce que quand on passe par la souffrance, on est tenté de dire que toutes les autres choses dans le monde sont notre seul bien. Et ça se passe parfois dans la famille. Je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose comme ça, mais un enfant peut être très content. Honnêtement, il peut être très, très content avec ses jouets. Mais dès qu'un autre enfant arrive et commence à jouer avec quelque chose d'autre, il pense quoi? Ça, c'est le seul bien pour moi maintenant. Je dois avoir ça. Il commence à avoir beaucoup de souffrance dans sa vie. Mais nous qui sommes des adultes, ça arrive parfois dans nos vies aussi. La souffrance arrive, on est privé d'une certaine chose et on pense tout de suite, mais ça, mon bien vient de ça. Et ça peut être notre santé, ça peut être une personne, ça peut être la réussite, ça peut être n'importe quoi. Et on est tenté d'oublier le fait que Dieu est notre seul bien. Donc, on va considérer ensemble ce passage. À la lumière du fait que le décès de Robert était une souffrance pour nous tous, et c'est toujours une souffrance, mais on ne veut pas limiter la pertinence de ce passage pour nous aujourd'hui à la perte de Robert, parce que son départ n'est qu'une partie de la souffrance qui existe dans nos vies. Il y a parmi nous ceux qui souffrent abondamment. Ces souffrances sont physiques, émotionnelles, et même spirituelles. Comment ce passage peut-il servir ceux qui souffrent? Et je vais laisser la réponse à un homme qui s'appelle Alain Ross. Il a écrit ces mots et j'étais béni par ces mots. Il a dit qu'il est essentiel que ceux qui croient en Dieu gardent sa bonté au premier plan de leurs préoccupations. Pas seulement comme elle touche à la vie présente, mais comme elle touche aussi à la vie future. Cela est important parce qu'il y a des temps difficiles où un croyant pourrait remettre en question l'intégrité de Dieu, douter sa bonté et autrement perdre confiance dans sa parole. Sans une conviction ferme de la bonté de Dieu, la crainte domine, les insécurités ont libre cours, la prière se transforme en l'espérance contre toute attente et la louange, si elle existe, sera creuse. Est-ce que vous avez vécu des jours comme ça? Avec la crainte qui domine, les insécurités qui ont libre cours dans votre cœur, la prière qui se transforme en l'espérance contre toute attente, et si vous pouvez louer le Seigneur, c'est comme des sons creux. Il faut la conscience permanente de la bonté et de la grâce de Dieu. Il n'est pas capricieux. Il ne va pas lâcher son peuple parce qu'il a mal à faire sa volonté. Il ne dirige pas non plus son peuple durant cette vie pour les abandonner quand il meurt. Non, Dieu aime les saints avec un amour éternel. Et il prend plaisir à faire du bien pour eux. Le psaume 16 fournit une occasion merveilleuse pour tout croyant de se concentrer sur la bonté de Dieu. Et ça, c'est notre but pour ce matin. Notons d'abord qu'il y a de la souffrance dans la vie de David. D'accord? Il dit tout de suite, verset 1, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Et on doit poser la question. Si on cherche un refuge, si on demande la protection, est-ce qu'on se trouve dans les moments de paix, de trouble ou d'allégresse, selon vous? Normalement, on ne demande pas la protection quand tout va bien. On ne cherche pas les polices quand tout va bien. On les cherche quand on a un grand problème. Donc, quand on pense, verset 1, il parle du fait qu'il cherche en toi mon refuge, et plus tard, au verset 8, nous lisons que David, avec l'aide de Dieu, ne chancelle pas. Ces mots, garde-moi, mon refuge, ne chancelle pas, ces mots nous font penser que la vie de David était dans une situation précaire. Qui a besoin d'être gardé? C'est quelqu'un qui est en danger d'être attaqué. Qui a besoin d'un refuge? Quelqu'un en danger d'être blessé. Qui a besoin d'aide pour ne pas chanceler? C'est quelqu'un en danger de tomber, quelqu'un qui est faible. Dans ce psaume, David se déclare en danger et dépendant d'une source extérieure à lui pour la sécurité. Nous pouvons dire en bref que David souffre, n'est-ce pas? Il a de la souffrance. Et si nous prenons un moment pour réfléchir, nous trouvons-nous dans une situation aussi précaire que celle de David aujourd'hui? Avons-nous besoin d'être gardés? Avons-nous besoin d'un refuge? Sommes-nous en danger de chanceler? Malgré la sécurité de notre pays, nous vivons face au danger quotidiennement. Je trouve c'est assez intéressant que les films, ils aiment bien proposer une situation où une météorite énorme s'approche à la Terre. Si quelqu'un ne peut pas le détruire ou la détourner, nous aurons une apocalypse, la fin de l'humanité. L'humanité. Ça fait une histoire intéressante, mais franchement, je n'en ai pas peur parce que cela me semble peu probable. J'ai pas peur quotidiennement qu'une météorite va arriver et détruire la Terre. Être une victime d'un attentat, c'est plus probable, mais encore une fois, je n'en ai pas beaucoup de peur parce que le danger n'est pas imminent. Il semble pas à moi de... Je vis pas en peur d'être tué pendant un attentat. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de dangers effrayants autour de nous. Un seul accident de voiture pourrait instantanément enterrer ma vie, ou même la terminer. Ça, c'est vrai. Un microbe invisible attrapé dans le métro pourrait irrémédiablement enterrer ma santé. Une crise économique pourrait supprimer notre moyen de gagner la vie. Un seul incendie peut enlever tous nos biens. Une action pécheresse pourrait profondément blesser une relation ou briser nos âmes. Nous ne sommes jamais loin d'une catastrophe parce que nous ne contrôlons pratiquement rien. Rien dans ce monde. Nous sommes en fait, toutes comme David, entourés par le danger. La vie est précaire et est remplie de souffrance, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et c'est quelque chose que vous vivez jour après jour. Mais comment vivre si la vie est entourée par un tel danger? David nous donne un indice au verset 1 et 2 où nous allons noter la relation qui existe entre David et Dieu. Notons avec moi le fait David utilise quel nom pour Dieu dans ce psaume. Il a choisi le nom Éternel, il l'a utilisé 4 fois dans le psaume, d'accord? Il dit au verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Le verset 5, il dit, l'Éternel est mon partage. Il dit au verset 7, je bénis l'Éternel. Le verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Donc pourquoi il a choisi ce titre, ce nom ici? Donc c'est parce que ça c'est le nom de Dieu qu'il a donné à son peuple et c'est un nom qui exprime sa relation avec eux en tant que son peuple dans son alliance. Par exemple, on lit ici dans ce passage en Exode, c'est Dieu qui parle, il dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » Ça, c'est pas mal, hein, d'avoir un Dieu tout-puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, Yahweh ou Jéhovah, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Quand il parle de l'Éternel, quand il parle à Dieu, il dit l'Éternel, il veut communiquer qu'il fait partie de l'alliance de Dieu. Pourquoi ça c'est intéressant et ça c'est important? Parce que l'Éternel est le nom que Dieu utilise pour communiquer sa fidélité, sa loyauté et son amour pour ceux qui font partie de son alliance. Le nom communique une relation intime entre Dieu et son peuple. David dit, en effet, protège-moi Dieu parce que je fais partie de ton alliance. Je fais partie de ton alliance. L'image que nous donne la Bible, c'est l'image du mariage. Ça, c'est une alliance entre un homme et une femme. Et dans cette alliance, normalement, il faut être de la sécurité. Hein? Un homme, quand il parle à sa femme, il ne parle pas à une femme étrangère, il parle à sa femme, la femme de son alliance. Il y a de la confiance entre eux. Et elle, quand elle parle à son mari, elle ne s'approche pas d'un homme étranger, un homme qu'elle ne connaît pas. Elle s'approche d'un homme avec lequel elle a fait une alliance. Il y a de la confiance, de loyauté entre eux. Et ça doit créer un espace de paix, un espace de confiance et de sécurité. Et quand David, quand nous s'approchons de Dieu, si nous sommes en Christ, nous ne s'approchons pas d'un Dieu qui est loin de nous. Nous ne s'approchons pas d'un Dieu qui n'a pas de l'intérêt pour nous. Nous s'approchons d'un Dieu qui est entré dans une alliance avec nous. Et il est toujours fidèle et loyal avec nous. Mais David ajoute un autre titre, c'est le titre Seigneur au verset 2 de ce psaume. Et ça, c'est le mot Adonai qui communique le fait que l'Éternel est son maître. Comme les serviteurs d'un maître humain, David dit que Dieu pourvoit tous ses besoins. Si le maître ne pourvoit pas pour le serviteur n'aura pas ce dont il a besoin. La bonne nouvelle pour David et pour nous qui sommes chrétiens, c'est que ce maître est le Tout-Puissant. et pouvoir toujours pour ses serviteurs. Et la question logique à ce stade, c'est quoi? Sommes-nous dans une telle relation avec Dieu? D'accord? Il a terminé le psaume avec ces mots. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Ça, c'est vrai pour ceux qui sont en alliance avec lui. Sommes-nous en alliance avec lui? Ça, c'est la question. Si nous voulons le bonheur, les délices éternelles, il faut avoir la relation. Sommes-nous entrés dans une alliance avec Dieu? Et peut-être il y a parmi nous ceux qui ne savent pas comment entrer dans une alliance avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il tuer quelque chose? Hein? Un bœuf, hein? Des chèvres, des brebis? Je dirais non, la Bible maintenant nous dit quoi? C'est vraiment pas compliqué. Jésus dit, juste avant de se sacrifier sur la croix, il a dit ces mots. Cette coupe est la quoi? La nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Quelques années plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique ces mots. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le pardon vient par le sang. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ, ça c'est Jésus, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aura fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour faire croire, pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Comment fait partie de l'alliance de Jésus-Christ? Si vous n'êtes pas chrétienne, sachez que la foi en Jésus est le seul moyen par lequel vous pouvez entrer dans une alliance avec Dieu. Dieu n'attend pas vos œuvres. Il n'attend pas que vous deveniez mieux ou digne. Il dit seulement, repentez-vous, croyez en Jésus-Christ. Mais avec cette promesse vient l'alliance avec Dieu. On peut avoir ce privilège de vivre en alliance avec lui. Et pour nous qui sommes des chrétiens, n'oublions pas que nous faisons partie d'une alliance avec le Dieu créateur. Il y a entre nous une relation profonde et il est toujours fidèle. Il est toujours aimant envers nous. Bon, la vie est difficile. On le connaît tous. Comment vivre pendant cette vie difficile avec beaucoup de souffrance? Il faut le faire dans la confiance qu'on a le privilège de vivre avec Dieu dans une relation qu'on peut dire c'est une alliance par le sang de Jésus-Christ. Pour une telle personne, Dieu est son seul bien. Mais cette affirmation signifie quoi exactement? De dire que Dieu est mon seul bien. Bon, on a déjà vu que Dieu est l'Éternel et que Dieu est Adonai. Et maintenant, on va parler du bonheur de David, le fait que Dieu est pour lui son seul bien. Au verset 2, David dit « Tu es mon souverain bien ». On peut éclairer l'idée de ces mots un peu en disant « De tous mes biens, toi, ô Dieu, tu es le souverain. Tu es le bien des biens. » On peut dire avec la version Semeur « Mon bonheur est en toi seul. » Qu'est-ce que David veut-il dire par le mot « bien » dans ce verset? Et je veux m'arrêter un peu pour dire que ça, c'est une affirmation forte, n'est-ce pas? Parce que quand la souffrance arrive, maintenant, on doit décider. Est-ce que c'est Dieu qui me rend heureux? Ou est-ce que c'est une autre chose? Et la tentation, c'est de dire quoi? Ce sont les autres choses. On le connaît parce que quand on est beaucoup troublé dans nos cœurs, et on commence à douter de Dieu, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est vraiment fidèle? C'est parce que nous avons placé trop d'importance sur quelque chose d'autre. On aime ça, la stabilité, les expériences, cette personne, l'argent, mon propre loisir. On a toutes ces propres choses, ces autres choses qui peuvent nous tenter. Mais si Dieu est vraiment notre seule source de bonheur, on veut dire quoi exactement? On peut être aidé par Deutéronome 28, le verset 11. Deutéronome 28, le verset 11. Et là, nous lisons ces mots. L'Éternel te comblera de bien. Ça, c'est notre mot, de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'image dans ce verset est celle d'un homme qui termine une journée du travail en réfléchissant sur le fait que beaucoup d'enfants entourent sa table, que son troupeau est grand et que ses silos sont remplis. Il peut dire quoi? Tout va bien. Moi, je suis comblé. Ma vie est belle. Deuxième passage où se trouve ce mot est Néhémie 2. Néhémie se proche de Jérusalem pour préparer des murailles et des portes de la ville. Et lorsqu'il s'approche de la ville, il se fait affronter par plusieurs hommes qui ont un grand déplaisir parce que quelqu'un est venu pour chercher le bien des enfants d'Israël. Quel est le bien dont il parle? Vous pouvez regarder plus tard le verset 10. Mais c'est la construction du muraille et des portes de la ville qui assure la sécurité du peuple. Ces murailles et ces portes étaient essentielles pour une vie sûre et prospère. Imaginez votre vie en France, peut-être sans la police nationale ou les gendarmes. Ou peut-être pensez à votre vie sans des portes qui ferment à clé. Pouvez-vous bien dormir sans serrure? Avant, j'étais dans le 95, qui est juste à côté de la 93, Sarcelles. Sarcelles, c'est une ville qui était dans les nouvelles récemment. Est-ce qu'on peut dormir à Sarcelles sans les portes qui ferment à clé? Je doute, hein, en disant « Tu es mon souverain bien », David veut communiquer que Dieu est pour lui le bien par excellence. Il est comblé avec Dieu, il n'a pas besoin d'autre chose. D'abord, si on dit avec le monde que la prospérité et la sécurité viennent de l'argent, du prestige, de la famille, de l'état, d'une bonne image, de soi, de la santé, etc. Si on dit avec eux ces choses, dans chacune de ces affirmations, on dit que quelque chose ou quelqu'un a une valeur incomparable. Pour moi, peut-être je dirais, c'est la famille. Sans famille, je ne peux pas être content. La famille est pour moi mon bien souverain. Si je perds la famille, je perds tout. Peut-être une autre personne dit, d'accord, mais pour moi, c'est la santé. Franchement, c'est la santé. Si je perds ma santé, je perds tout. Un homme, peut-être, par exemple, pourrait changer sa santé pour l'argent s'il pense que la richesse vaut plus que la santé. Il peut perdre sa famille pendant qu'il amasse sa fortune s'il considère que l'argent porte plus de valeur que sa famille. Ça arrive, n'est-ce pas? Mais à la fin du compte, il estime que la richesse lui porte plus de bonheur que sa santé et sa famille. À la lumière de cette illustration, considérez l'implication de l'affirmation de David que Dieu est son souverain bien. Cela signifie que David estime que Dieu lui porte plus de bonheur que la bonne santé, sa famille, sa richesse, etc. Pour lui, Dieu est le bien des biens. Il n'a pas besoin d'un autre bien plus. Il n'y a pas un autre bien plus essentiel que Dieu. Et David illustre ce qu'il veut dire au verset 5 et 6 où il dit « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. » Et cette affirmation appelle à la mémoire l'héritage des Lévites rapporté en Nombre 18-20. D'accord? Vous vous rappelez un peu de ce qui est arrivé avec Israël? Il y avait combien de tribus? 12, n'est-ce pas? Et parmi ces 12, seulement 11 tribus ont reçu du territoire. Mais les Lévites, ils n'ont pas reçu. Alors, ça, c'est pas juste, on dit. Hein? Si ça s'était nu, hein, on aura des manifestations sur la route. Hein? Il faut que les Lévites ont leur propre héritage, un territoire. Mais Dieu dit non. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Pensez-vous que les Lévites ont dit, ah, dommage. Les autres reçoivent des champs, mais nous recevons que Dieu. Non, je le doute. Hein. Je le doute. Avoir Dieu comme héritage est un bien incommensurable. C'est d'avoir un bien qui vaut plus que tous les biens du monde ensemble. Bon, on peut dire que l'affirmation de David est belle, mais il faut admettre que c'est vraiment simple de dire « Dieu est mon seul bien ». Chacun ici peut le dire facilement. Mais comment savoir si ce sentiment est vrai et sincère chez David et chez nous? Comment le savoir? Premièrement, David parle de son association avec le peuple de Dieu au verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Une personne qui trouve sa seule source de bien-être en Dieu aimera tous ceux qui font pareillement. C'est logique, n'est-ce pas? Comment une personne pourrait-elle mettre son affection sur quelqu'un qui nie ou qui dénigre sa seule source de bonheur. Ça pose une question, où se trouvent nos affections? Aimons-nous Dieu? Si on dit oui, il faut poser la question, est-ce qu'on aime le peuple de Dieu? Est-ce qu'on aime son peuple? Préférons-nous passer notre temps parmi ceux qui ne sont pas connus de Dieu? Préférons-nous nous divertir par les films, les livres, la musique ou les activités de ceux qui n'ont aucune affection pour Dieu? Sommes-nous facilement empêchés d'assister aux réunions de l'Église? Quelle preuve montre que Dieu est notre seul bien? Pouvons-nous dire avec David que les saints sont les objets de toutes nos affections parce qu'ils sont le peuple de Dieu? Et deuxièmement, David offre sa fidélité à Dieu comme preuve de son affirmation. Au verset 4, David dit, « On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » On peut faire plusieurs observations par rapport à l'idolâtrie mentionnée dans ce verset. D'abord, l'idolâtrie était la mode. C'était la mode. Tout le monde le faisait. On doit donc multiplier les idoles. Ensuite, l'idolâtrie était accessible. Les idoles étaient multipliées, on pouvait en trouver facilement. Aucun besoin pour chercher une idole. Puis l'idolâtrie était agréable. Le monde courait après ces idoles. Hein? Il y avait quelque chose d'attirant. Et finalement, l'idolâtrie était personnalisée. On peut choisir entre ces idoles afin d'avoir une expérience personnalisée. Hein? À la mode, accessible, agréable, personnalisée, l'idolâtrie était vraiment charmante. Pourquoi David n'a pas participé à l'idolâtrie? Il ne l'a pas fait parce que ses dieux étaient étrangers. Ses dieux n'étaient pas le vrai Dieu d'Israël. D'abord, David, en tant qu'un homme qui faisait partie d'une alliance avec le vrai Dieu, ne pouvait pas adorer ses dieux. Donc, il était fidèle et loyal à son propre Dieu. Sommes-nous vraiment les personnes qui peuvent dire « Dieu est mon seul bien » ? Il y a des indications dans la vie. Quelle est ma relation avec le peuple de Dieu ? Et quelle est ma relation avec Dieu lui-même ? Comment appliquer ces versets, hein? Vous pouvez vivre une année, une vie comblée de joie, malgré toute déception, quand Dieu est votre bien, parce que Dieu est constant. Le problème avec les biens du monde, c'est qu'ils sont éphémères. Ils peuvent nous amener de la joie pendant un temps, mais sans exception, leur joie dissipe parce qu'ils changent ou ils disparaissent sans exception. N'est-ce pas? On peut penser à une source de joie comme le café. Hein? Si on aime le café, on aime prendre un café, mais ça va durer pendant combien de temps? Quelques minutes, hein? C'est tout. Hein? Il faut prendre un autre café, mais la prochaine fois, il faut ajouter un peu de sucre, peut-être. Et après, il faut un mocha, un cappuccino. Hein? Il faut toujours quelque chose mieux. Mais chaque fois, qu'est-ce qui arrive? Le bonheur part. Il faut le renouveler. Mais Dieu ne change jamais. C'est la même chose pour la nourriture, les jeux vidéo, les vacances, la famille, un livre, le sport, la musique, etc., etc., etc. Rien peut durer comme Dieu. Dieu est éternel et invariable, et donc la joie qui vient de Dieu est aussi éternelle et invariable. Avec Dieu, nous pouvons avoir la joie. La joie qui dure éternellement. Mais il faut dire que c'est lui et seul lui qui est notre bien souverain. Nous serons déçus. Franchement, nous serons déçus si nous mettons notre confiance dans d'autres choses. Et je veux juste parler brièvement. La souffrance arrive et la souffrance touche toujours les choses qu'on aime bien. Si on prend par exemple les relations, ça semble être une chose qui est vraiment proche à nos cœurs. On a perdu Robert, on a perdu Marcel, on perd souvent les personnes. Si nous comptons sur la famille pour la joie, nous sommes vraiment très souvent déçus. Les adolescents, par exemple, ils pensent souvent que leurs familles ne sont ni sympas ni cool. Ils cherchent le soutien partout pour trouver une source de joie qui est stable pour les adolescents, les enfants. Ils cherchent les autres amis. Ils veulent la joie. Mais qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas mettre la confiance dans nos copains et nos copines. Les célibataires pensent qu'un époux, une épouse le rendra plus heureux et content, mais après la lune du miel est finie et la nature pécheresse de l'époux, de l'épouse est dévoilée, ils sont tentés à croire qu'un époux différent portera plus de bonheur. Ça, c'est ce qui arrive. Les jeunes couples se réjouissent quand un enfant est né, mais leur joie connaît des hauts et des bas pendant que leurs enfants rebellent contre leur amour. La famille est établie par Dieu et elle porte beaucoup de joie dans ce monde, mais elle ne peut pas donner une joie constante et éternelle. Pourquoi pas? Parce que la famille est composée des pécheurs et un péché nous déçoit. Déçoit toujours. Mais Dieu ne change jamais et ne nous décevra jamais. Nous savons que la famille est importante, mais notre société estime parfois la santé. Surtout la santé. Quand c'est la nouvelle an. Qu'est-ce qu'on dit? Bonne année. Ouais. En France, on dit « Bonne année et la santé hein. ». C'est un peu notre bénédiction pour tous. Il faut le répéter 1000 fois avant la fin de janvier. Et la santé, c'est une bénédiction de Dieu, mais notre santé est vraiment fragile. Ça peut passer comme ça. On ne peut pas mettre notre confiance dans la famille, dans la santé. Il faut le mettre en qui? En Dieu. Ce matin, j'avais le fardeau, franchement, de parler avec notre église qui a souffert. Et je sais que la souffrance a duré pendant beaucoup de temps. Et je sais que vous souffrez encore. Vous avez des pressions financières, vous avez des pressions relationnel, vous avez des pressions spirituelles, vous avez des pressions physiques. Et la tentation, c'est toujours quoi? Avec la souffrance, de se douter de Dieu. Est-il bon vraiment? Est-il fidèle vraiment? Pourquoi je souffre comme ça? Et la question qu'il faut se poser, c'est où est vraiment mon bonheur? Dieu est-il vraiment mon bien souverain? Ou est-ce que c'est cette chose-là que je risque de perdre et qui me trouble profondément? Si nous voulons avoir la paix comme David avait, il avait besoin de refuge, de protection. Il avait besoin d'aide pour ne pas chanceler. Mais il pouvait dire: « Toi, Dieu, tu es mon seul bien. mon bien souverain. Est-ce qu'on peut dire la même chose ce matin? Que Dieu nous aide.